affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour. Vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy. Merci de votre fidélité. Dans notre émission de ce jour, nous allons effectuer un cheminement dans des notions à la fois temporelles et intemporelles. Nous allons examiner nos racines sur Terre et puis celles que nous avons probablement aussi dans le ciel, celui des idées et de la foi. Nous avons en effet la chance de recevoir la chance et l'honneur de recevoir dans notre studio Jean Delumeau. Jean Delumeau, bonjour.
Bonjour.
Jean Delumeau, on ne vous présente plus, mais je vais le faire quand même.
Merci.
Vous êtes, m'avez-vous dit, avant tout un enseignant et un passeur, ce qui est extrêmement fécond et évidemment important pour un membre de l'Institut tel que vous êtes. Vous avez été enseignant au Collège de France. Vous avez enseigné de 24 à 71 ans, m'avez-vous dit.
Pas de 24. Ah non. Non, je suis entré au Collège de France en 1975, donc j'avais 52 ans.
Mais il dit que vous avez commencé à enseigner avant.
Ah oui, mais bien sûr, mais voilà. On commence pas par le Collège de France.
Non, bien entendu.
J'ai commencé par être professeur de Cagnes.
Bien entendu, oui, je voulais dire une vie consacrée à l'enseignement, à la volonté de passer à la fois un héritage et d'y réfléchir. Mmh. Et c'est ce que nous allons faire à travers l'ouvrage que vous venez de publier, qui s'appelle L'avenir de Dieu, lorsque je disais que voilà, et qui aborde à la fois votre carrière d'historien, et puis aussi de façon plus intime, mais également intellectuelle et réfléchie, vos réflexions sur la foi qui traversent à la fois vos réflexions personnelles et votre enseignement, puisque pour mémoire, dans votre bibliographie bien sûr bien plus vaste, nous trouvons des ouvrages fondateurs qui restent dans la mémoire de ceux qui les ont lus. Le christianisme va-t-il mourir en 1977, la peur en Occident du XIVe au XVIIIe siècle et une histoire du paradis. On pourrait en citer d'autres, mais celui-ci apporte peut-être une conclusion à ce type de réflexion. J'ai cité le christianisme va-t-il disparaître ou mourir plutôt, mourir c'est le titre exact. Et on en vient à l'avenir de Dieu. Et c'est-à-dire que finalement, il y a un regain d'espérance à espérer dans le monde contemporain tel qu'on le voit. Voilà qui va surprendre justement nos contemporains qui sont plutôt dans une ambiance pessimiste et de peur de l'avenir.
Oui, alors moi, je persiste à croire dans les possibilités de l'avenir. Mais je ne convainc pas tout le monde.
Quels sont les traits qui, dans le monde d'aujourd'hui, vous incite à croire à l'avenir et à lui trouver des atours attrayants?
Oui, alors, tout d'abord, il faut bien dire que nos contemporains, vous et moi, nous avons vécu et nous vivons une période de transformation absolument fondamentale, telle que l'humanité n'en avait jamais connue jusque-là. Et c'est pourquoi il ne faut pas forcément se tourner vers le passé pour trouver les solutions d'avenir. Parce que nous nous trouvons dans des situations très neuves et donc il nous faut inventer maintenant notre avenir à l'aide justement d'inventions, je reprends le mot, à l'aide d'inventions qu'il nous faut sans doute mieux utiliser que nous l'avons fait jusqu'à présent. Hein. Mais nous sommes dans l'innovation absolue. Et ça, je ne suis pas sûr que nos auditeurs le perçoivent. Mais il faut le dire, hein, plus que nos grands-parents ou arrière-grands-parents, nous devons innover chaque année. C'est énorme. C'est une charge énorme pour l'humanité. Hein, mais en même temps, si l'humanité a été capable jusqu'à présent de franchir un certain nombre de siècles, en faisant d'énormes progrès, pourquoi est-ce que ça ne continuerait pas?
Je comprends votre affirmation, et en même temps, elle m'étonne. Est-ce que, par exemple, l'irruption du christianisme dans le monde antique, ou l'irruption de la Renaissance dans le monde médiéval, des lumières à la veille de la Révolution française ne constituaient pas finalement des mutations comparables. Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, c'est encore plus radical ?
Ah, c'est encore plus radical. Ça, il n'y a aucun doute. On n'avait jamais eu, dans le passé, une civilisation comme la nôtre. On peut, par exemple, pour reprendre les comparaisons que vous avez avancées, on peut tout de même comparer, si vous voulez, la belle période de l'Antiquité à la belle période de la Renaissance. Mais alors maintenant, notre monde ne ressemble presque plus à rien par rapport à notre passé. Et donc il nous faut inventer une nouvelle vie sur Terre.
Qu'est-ce qui vous pousse à y voir une... Quels sont les traits distinctifs de cette différence radicale ?
Nous inventons à chaque instant. Chaque année, il y a de par le monde des foires, des expositions qui montrent ce qui s'est fait de nouveau dans l'année précédente. Et quand je lisais encore aujourd'hui dans les journaux que aux États-Unis, on va construire un TGV entre San Francisco et Los Angeles, n'est-ce pas, qui fera le trajet en 3/4 d'heure. Et ça, bon, quand j'avais 25 ou 30 ans, c'était quasiment inimaginable.
On est dans le domaine de la technique.
De la technique, presque de la science-fiction. Mais on est à une époque où, du jour au lendemain, la science-fiction devient réalité et submerge la réalité antérieure. Et ça, à ce rythme-là, avec cette puissance-là, ça ne s'était jamais vu dans l'histoire humaine.
Donc justement, face à cette, effectivement, cette accélération du rythme, pour l'historien que vous êtes, l'antidote ou le soutien qui pourrait être apporté à l'humanité n'est-il pas justement dans la capacité à retrouver le sens de la longue durée, de la mémoire, de l'héritage, pour retrouver une temporalité plus calme que ce rythme trépidant?
Alors, il est certain que notre époque, je vous rejoins, aurait besoin de se calmer un peu, de souffler. Or, on ne souffle pas. On n'a pas fini d'inventer quelque chose quand on invente autre chose. Et là, il faut dire que c'est épuisant, à la limite démoralisant. Mais d'un autre côté, il faut constater objectivement qu'une civilisation comme la nôtre ne s'était jamais vue dans le passé. Et c'est pour ça qu'il est un peu dangereux de chercher des solutions dans le passé, parce que peut-être qu'il n'y en a pas. Nous sommes dans l'innovation continuelle et absolue. Et alors quand on arrive à mon âge, qu'on a dépassé 90 ans, et qu'on se rappelle sa jeunesse, on a l'impression d'être reporté ou déporté vers des siècles en arrière. Siècles en arrière.
Alors, ce qui caractérise cette époque...
Quand je vois tous les instruments de communication qu'utilisent mes petits-enfants ou arrière-petits-enfants, bon, moi, je travaille quand même à l'ordinateur, mais je vais guère au-delà. Hein. Et par conséquent, je me sens dépassé par les jeunes. Et maintenant, les jeunes, les vieux, ont besoin de demander des conseils aux jeunes.
Oui, sur la maîtrise d'outils.
Oui, mais aussi sur la maîtrise du passé.
Ah, vous pensez que les plus anciens demandent aux jeunes des conseils sur la maîtrise du passé ?
Ça, il est certain que nous vivons, moi j'ai de plus en plus l'impression de vivre des situations inédites. Et ça, c'est pas facile à porter. On comprend qu'il y a un malaise de notre civilisation parce qu'il nous faut presque tout inventer en même temps.
Est-ce que le malaise ne vient-il pas aussi du fait que notre civilisation valorise l'inédit par le simple fait qu'il est inédit ?
Sûrement. Alors ça, c'est pas tout à fait nouveau. Parce que si on se reporte à l'époque de la Renaissance, on s'aperçoit qu'on n'avait jamais construit de coupole de la hauteur de celle de Sainte-Marie del Fiore à Florence ou de Saint-Pierre de Rome. C'était une nouveauté absolue. De même, au XVIIIe siècle, tout d'un coup, avec l'étude des fossiles, on s'aperçoit que l'humanité n'avait pas, ou le monde n'avait pas 4000 ans, comme l'enseignait l'Ancien Testament, mais qu'il était beaucoup plus vieux. Donc, chaque siècle, ou chaque demi-siècle, je ne dirais pas chaque année, apporte maintenant son lot de découvertes. Nous faisons regarder le monde avec un regard totalement différent de celui de nos ancêtres. Et ce n'est pas étonnant que parfois nous nous sentions perdus, parce que c'est du jamais vu. Nous inventons tous les jours du jamais vu. Ce n'est pas facile à porter, mais en même temps c'est exaltant.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment toutefois que, pour reprendre les révolutions, les ruptures que j'avais évoquées, qu'elles étaient l'objet d'une forme de décentrement, par exemple la Renaissance, qui permettait à l'homme de s'observer lui-même. Donc il ne s'agit pas d'une accélération, mais d'une capacité à se décentrer, à trouver une sorte de troisième œil permettant de constater certes la contingence de l'humanité, mais qu'il ne s'agissait pas de cette ambiance un petit peu trépidante,
oui,
où il n'y a même pas de prise de recul.
Simplement, tout de même, puisque vous parlez de la Renaissance, c'est que je suis spécialement quelqu'un qui a étudié la Renaissance, il faut reconnaître qu'à l'époque de la Renaissance, l'homme a vu le monde avec des yeux nouveaux, et un monde qui n'avait pas les dimensions qu'il avait crues. Il faut reconnaître que la découverte de l'Amérique, à cet égard, a été absolument sensationnelle. Car on n'imaginait pas, avant la fin du XVe siècle, que le monde avait les dimensions qu'il a effectivement. Donc il a fallu, comme on dit vulgairement, mettre les pendules à l'heure. Et déjà, là, c'était un progrès considérable dans le sens de la modernité. Naturellement, tout n'a pas marché du même pas, ça c'est sûr. Mais enfin.
Alors, aujourd'hui, pour faire face à ces mutations... sauf à reprendre cette injonction à inventer toujours plus, mais n'a-t-on pas quand même l'impression, lorsqu'on la suit, d'être, vous savez, comme cette souris qui est dans la roue et qui a beau galoper de plus en plus vite, 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 mais quelle est l'issue ?
Alors là,
quel est le sens ?
Alors là, je ne sais pas si je peux répondre à votre question, parce que nous sommes dans le bateau. Et qui est dans une mer dont on ne sait plus exactement où elle se termine et où elle commence. C'est bien d'accord. Cependant, il y a quand même des conquêtes scientifiques certaines qui ont permis, qui permettent de prolonger la vie humaine. Maintenant, il est presque banal en France d'avoir, ce qui est mon cas, plus de 90 ans. Autrefois, ce n'était pas le cas. Par conséquent, il nous faut mesurer le temps avec d'autres mesures que celles que nous avions autrefois. Alors, nous sommes amenés, nos contemporains et moi naturellement, nous sommes amenés à utiliser d'autres instruments de mesure, d'autres instruments de connaissance que ceux d'autrefois. C'est exaltant, mais c'est difficile à vivre.
J'ai lu hier... qu'un homme atteint d'une maladie dégénérative, la maladie de Charcot, aux États-Unis, avait décidé de hâter sa mort en débranchant l'appareil respiratoire qui l'aidait à vivre, de façon à aussitôt se faire cryogéniser, donc glacer à une vitesse phénoménale, de façon à espérer être ramené à la vie, ressuscité physiquement, par les avancées de la médecine, disait-il, dans 20, 30 ou 50 ans. Ce qui, à mon avis, est un horizon quand même un peu court. Que vous inspire ce type d'espérance ?
Alors là, moi, je crois que c'est un peu précipité comme démarche. Donc, déjà, digérons nos progrès actuels. Sans trop vouloir anticiper sur un futur peut-être inaccessible. Je sais pas.
Est-ce que vous ne pensez pas que ce refus de la condition humaine.
Ce refus de...
De la condition humaine qui est quand même marquée par la finitude, jusqu'ici. Alors, est peut-être vieille comme le monde, mais a quand même, aujourd'hui, par ses applications, une dimension un petit peu pathologique.
Oui, mais alors, de toute façon, quand même, je crois qu'on peut dire que on fera avancer la médecine autant qu'on voudra, autant qu'on pourra, mais on n'empêchera pas l'homme de mourir. Et ça, si je voulais, cette pensée, à mon avis, n'est pas une pensée pessimiste, c'est un constat. C'est un constat. Ou, si j'irais un pari sur l'avenir, mais c'est plus qu'un pari. Il nous faut mourir. Et par conséquent, c'est une pensée qui tout de même doit peut-être nous remettre les pieds sur terre. Il faut de temps en temps penser à la mort, surtout quand on vieillit.
Alors précisément, est-ce même souhaitable d'ailleurs
de...
C'est terrible hein, d'affirmer ce que je vais dire, peut-être... Peut-être que je le dis sur un ton léger, car je ne suis pas immédiatement concerné, mais est-ce même souhaitable d'imaginer un être humain qui serait éternel ? Est-ce que le cours de l'histoire, du progrès, du renouvellement, n'est pas lié à ce renouvellement permanent ?
Ça, c'est sûr, c'est sûr. La vie dans notre univers est une vie qui doit se terminer par la mort de chacun d'entre nous. Ça, c'est sûr. Ce qui ne veut pas dire que ça soit une mort éternelle, mais c'est une mort. La mort au-delà, enfin, la vie au-delà de la mort échappe à notre entendement. Mais on peut l'espérer.
Justement, ce rapport à la mort, j'ai lu dans votre ouvrage que ce rapport à la mort faisait partie probablement de tout temps, mais aussi aujourd'hui et à l'avenir, des questions centrales qui. À un moment ou un autre, de façon soudaine ou longuement maturée, nous rapproche de la question de l'existence de Dieu et,
bien sûr.
Et de sa forme.
Mais à mon avis, nous sommes destinés à mourir. Bon, mais il ne nous est pas interdit de penser que, au-delà de la condition humaine, il y a une autre existence. Avec quelqu'un qui, lui, ne meurt pas. Alors, moi, c'est ma position, c'est mon espérance, ma foi, si vous voulez. Hein. Tout le monde ne les a pas, naturellement, mais enfin... bien que, étant maintenant un vieillard, je ne m'attriste pas devant la condition humaine. Je crois que c'est la condition d'un passage.
Alors, précisément, condition humaine, donc que vous évoquez, avec sa finitude, toutes les pesanteurs, la souffrance qui peut accompagner aussi cette existence, et néanmoins porteuse d'une dignité et qu'il faut savoir observer. N'avez-vous pas le sentiment qu'en gommant justement, en faisant en sorte de vouloir évacuer, mettre de côté cette souffrance, les imperfections qui s'attachent à cette condition? On en finit par la vider de sa substance.
Alors, je ne crois pas qu'on pourra évacuer de l'horizon humain l'échéance de la mort. Ah, on peut essayer, comme disait Pascal, de se distraire. Hein. On y arrive. On y arrive. Notre époque a inventé, entre guillemets, beaucoup de distraction. Mais enfin, aucune distraction ne nous empêchera de mourir. Alors il faut quand même remettre les choses au point et regarder les choses en face.
Je vais aller plus loin. Est-ce que cette volonté de se distraire, de mettre cette question-là, la mort, la maladie, la souffrance de côté, n'aboutit pas aussi aujourd'hui à une forme de barbarie, c'est-à-dire que on met en dehors de la société, au banc de la société, en dehors des regards, tout ce qui n'est pas conforme à ce désir de puissance et de toute puissance,
oui.
Qui mais est quand même placé aussi au cœur de cette société.
Oui, mais la barbarie, c'est aussi autre chose. Hein. C'est une mauvaise utilisation de la vie et des éléments de la vie. On peut être agnostique sans être un barbare. Ça, il faut le dire. Simplement, moi, je dis mon sentiment personnel. Je ne vois pas comment l'homme aurait pu arriver au point d'intelligence et de connaissance où il est parvenu aujourd'hui s'il n'avait pas été conçu par quelqu'un, par un créateur avec un C majuscule, voyez-vous. Parce que, quand même, la mécanique du monde, d'une part, mais d'autre part, le génie humain, d'autre part, atteste, à mon avis, d'une intelligence supérieure au-delà de la nôtre et au-delà de la vie terrestre habituelle.
Vous ne croyez pas au hasard ? Vous ne croyez pas que c'est le fruit du hasard ? Pour non. Résumer.
Il peut y avoir... bien sûr, il y a des rencontres qui tiennent au hasard. Néanmoins, globalement, je ne crois pas que le hasard gouverne le monde, non.
Puisque nous réfléchissons depuis un petit moment au rapport entre les questions de l'innovation, notamment scientifique et technique, que pensez-vous du courant actuel qui tend d'un côté à effacer la frontière entre, d'une part, l'homme et le reste de la création, l'homme et les animaux, l'antispécisme, comme on l'appelle, d'un côté, et de l'autre, ce courant qu'on peut appeler le transhumanisme, et qui tend, lui, à effacer la frontière entre l'homme et la machine, l'homme et l'ordinateur, l'homme... voilà. Tous ces discours qui tend à expliquer notamment que l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, finalement, ne sont pas de nature... différentes. Est-ce que finalement,
sauf que
je sais que vous vous définissez comme un humaniste chrétien.
Les prouesses mécaniques, techniques, scientifiques de notre époque ont besoin, pour être mises en œuvre, d'une intelligence, disons, exceptionnelle et qui fait notre émerveillement. Il faut bien voir quand même que, de plus en plus, l'homme existe. Parce que de plus en plus, ses connaissances s'accroissent, son pouvoir s'accroît, et par conséquent, il est mieux à même qu'autrefois de mesurer le prodige qu'est l'homme. Et alors, comment se fait-il qu'il y ait ce prodige ?
Ça me laisse sans voix, car ça nous ouvre des perspectives... Ça me laisse sans voix, simplement parce que ça nous ouvre des perspectives, effectivement, qui sont d'ordre...
Métaphysique. Je ne vois pas comment toutes les découvertes actuelles, toutes les améliorations actuelles, je ne vois pas comment ça peut s'expliquer sans un génie humain pour les trouver, les mettre en œuvre, etc. Et ce génie humain, d'où est-ce qu'il vient ?
J'espère que vous n'espérez pas que je vous réponde.
Comment ?
J'espère que vous n'espérez pas que je vous réponde.
Non, mais pour moi, le génie humain vient de Dieu.
C'est pourquoi vous croyez en l'avenir de Dieu ?
Oui, exactement. Je crois qu'il n'a pas dit son dernier mot. Malgré les apparences, malgré tout le bruit qui se fait actuellement dans le monde, mais malgré cela... Je suis persuadé que l'homme a un avenir parce que Dieu est.
Le regard de l'historien, c'est de considérer donc, malgré tous les soubresauts de l'histoire, le mal, la souffrance qu'on peut constater, il reste des choses intemporelles qui sont belles.
Qui sont ?
Belles.
Belles, oui, oui. Exactement. Donc, voyez-vous, moi, au soir de ma vie, je ne suis pas un pessimiste. Mais je constate que l'humanité a eu de très vilaines pages, et elle en a eu de très belles aussi. Alors, donc, il faut faire pencher la balance du côté de la beauté, et de l'intelligence, et de la charité.
Le vrai, le bien, le beau.
Oui.
On en revient toujours à ça, finalement. Ils se confondent.
Et je dirais qu'ils se rejoignent.
Dans ce même studio, nous avions reçu il y a quelques semaines Michael Edwards, qui est lui aussi chrétien, protestant.
Oui, oui.
Et je sais que vous avez beaucoup d'amitié pour les protestants.
Oui.
Et il nous incitait à une lecture poétique de la Bible et une capacité à saisir toute la vigueur poétique des textes bibliques, qu'ils soient de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Et au fil de son propos, il nous disait que finalement, ce qui était le plus important, c'était la capacité d'émerveillement.
Oui, alors ça, je le crois. Ça, je le crois. Je le félicite, je le remercie de l'avoir dit. Pouvoir s'émerveiller, mais s'émerveiller, par exemple, devant un enfant, c'est une chose qui arrive constamment dans la vie, hein, et qui rend la vie, justement, plus acceptable. Donc, s'émerveiller devant le génie de l'enfant, ça nous reste, et j'espère que ça nous restera encore.
Jean de Lumeau, j'ai presque envie de terminer l'émission sur... J'ai envie de terminer l'émission sur sur ce conseil.
Merci.
Sur ce conseil que vous adressez à nos auditeurs de continuer à s'émerveiller.
Et je dirais aussi, moi j'aimerais terminer cette émission sur un souhait, c'est de continuer encore assez longtemps à pouvoir dialoguer avec mes contemporains et dialoguer d'une façon simple, comme nous venons de le faire, voyez-vous. C'est pas le scientifique ou c'est pas l'historien qui parle. C'est l'homme qui aime rencontrer d'autres hommes.
Quand les hommes sont ensemble, Dieu est là. Quand les hommes sont ensemble, Dieu est là, je crois que c'est...
Ça, je le dirais volontiers. Oui.
Je crois que le Christ avait dit quelque chose de cet ordre-là.
Et
c'est certainement vrai. Et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Et merci d'avoir pu bavarder avec vous.
J'espère que vous accepterez les prochaines. Et pour permettre à nos auditeurs de poursuivre cette rencontre et de découvrir cette œuvre d'une vie, mais qui ouvre non seulement sur le métaphysique, mais aussi sur un grand nombre de petites observations qui justement rendent la métaphysique présente et tout le merveilleux de la vie, je les invite à se reporter l'ouvrage de Jean de Lumeau, L'avenir de Dieu, qui est aussi, vous l'avez compris, un avenir possible de l'homme dans la beauté, la vérité et la bonté.
Dans un monde pacifié.
Là, vous en demandez peut-être un petit peu trop quand même, Jean de Lumeau.
Il faut mieux demander plus que moins.
Vous avez raison, c'était une mauvaise plaisanterie. Et donc l'ouvrage s'appelle L'avenir de Dieu par Jean de Lumeau, c'est aux éditions du CNRS. Mais je rassure tout de suite nos auditeurs, malgré qu'il s'agisse des éditions du CNRS, c'est un livre extrêmement sensible, intime, qui est à mettre entre toutes les mains, à tous les âges. Ce n'est pas un ouvrage, c'est un ouvrage savant parce qu'il est précis, mais c'est loin d'être un ouvrage difficile. Il est facile d'accès et chacun pourra y trouver de quoi nourrir à la fois sa réflexion et son émerveillement, puisque nous en parlions.
Merci beaucoup.
Merci à vous.